Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tine. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive et par le mont Sinin et par cette cité sûre très certainement nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 28 septembre 2022. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Aucune puissance au monde n'ose violer les frontières iraniennes. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, la reprise des attaques de missiles contre des terroristes anti-iraniens basés dans le nord de l'Irak. L'opération se poursuit jusqu'au démantèlement du quartier général des terroristes, selon le corps des gardiens de la révolution islamique. La police de Londres publie des images de 13 suspects impliqués dans des violences lors d'une récente manifestation devant l'ambassade d'Iran. Et puis Hossein Amir Abdollahian, chef de la diplomatie iranienne, et le diplomate onusien Martin Griffiths discutent de la situation humanitaire au Yémen, en Afghanistan et en Syrie. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. La reprise des attaques de missiles contre les terroristes anti-iraniens basés dans le nord de l'Irak, la base Hamza Sayed al-Shohada des forces terrestres du CGRI, corps des gardiens de la révolution islamique, a commencé ce mercredi matin la nouvelle série d'attaques contre les positions et les quartiers généraux de groupes terroristes anti-iraniens basés dans la région nord de l'Irak. La base des forces terrestres du CGRI a commencé depuis ce matin la nouvelle série d'attaques contre les positions et les quartiers généraux de groupes terroristes anti-iraniens basés dans le nord irakien. Selon le rapport, dans ces opérations, les 360 missiles des forces terrestres du CGRI, les drones suicides de l'organisation de combat de cette force, ont été utilisés pour cibler le quartier général et les lieux de rassemblement des terroristes. Il convient de noter qu'à la suite des tentatives des groupes terroristes et séparatistes basés dans la région nord-irakienne pour semer le chaos et l'insécurité dans le pays, les forces terrestres du CGRI ont lancé une série d'opérations contre les emplacements des éléments de ces groupes terroristes depuis le 24 septembre et selon les informations reçues, ces opérations sont toujours en cours. En outre, le CGRI a annoncé la poursuite de ces opérations jusqu'au démantèlement du quartier général des groupes terroristes. Sachez également que s'agissant des bombardements menés dans le Kurdistan irakien, l'adjoint aux opérations du CGRI a déclaré, dixit, « Nous nous permettons en aucune circonstance que des menaces se forment dans le pays et nous avons annoncé à tout le monde que nous toucherons à tout moment l'origine de l'opération contre notre pays ». Selon cette autorité militaire, le quartier général bombardé dans la région nord de l'Irak a joué le plus grand rôle dans les récents troubles en Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et s'est entretenu avec le mardi hors local. Selon l'IRNA, en raison des appels téléphoniques multiples et continus entre le ministre iranien des Affaires étrangères et le secrétaire général de l'ONU concernant les questions liées à la politique étrangère, régionale et internationale, cette rencontre a eu lieu pour donner suite à des questions d'intérêt commun. Les derniers développements liés au pourparlers pour la levée des sanctions ont été discutés et des points de vue ont été échangés à cette occasion. Concernant les pourparlers sur la levée des sanctions, Amir Abdollahian a déclaré « De nombreux progrès ont été réalisés et nous pensons qu'un accord peut être trouvé si la partie américaine est réaliste ». Antonio Guterres a souligné pour sa part « Dixit, nous avons toujours soutenu le retour de toutes les parties à l'accord nucléaire » avant d'ajouter « J'espère que nous le verrons bientôt ». Se référant au système démocratique de la République islamique d'Iran, Amir Abdollahian a déclaré « La manifestation pacifique est le droit du peuple, mais la manifestation pacifique est différente du chaos et de la perturbation de l'ordre public du pays ». Sachez également que Hossein Amir Abdollahian a rencontré le président de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre iranien des Affaires étrangères, a rencontré mardi à New York le président de l'Assemblée générale des Nations unies. Sachez également que le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et un responsable de l'ONU à New York se sont rencontrés pour discuter de la situation humanitaire dans le monde, en particulier au Yémen, en Afghanistan, en Syrie et en Ukraine. Lors de la rencontre avec le sous-secrétaire général des Nations unies aux affaires humanitaires et coordinateur de secours d'urgence, Martin Griffiths, Amir Abdollahian a déclaré « La situation au Yémen est très déplorable. L'ONU devrait prêter attention à la levée du blocus du Yémen ainsi qu'à faciliter le dialogue politique entre les factions yéménites afin de renforcer le cessez-le-feu dans ce pays déchiré par la guerre. » Les deux parties se sont également penchées sur les évolutions politiques et des situations humanitaires en Afghanistan et en Syrie. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Aucune puissance au monde n'ose violer les frontières iraniennes. Le coordinateur adjoint de l'armée iranienne, le contre-amiral Habibullah Sayeri, a déclaré lundi qu'aucune puissance au monde n'osait violer les frontières iraniennes et l'intégrité territoriale du pays. Le coordinateur adjoint de l'armée iranienne, le contre-amiral Habibullah Sayeri, a évoqué la présence de la marine iranienne en haute mer et a déclaré que cette présence est révélatrice de la capacité, des connaissances et du pouvoir élevé des enfants iraniens. Toutes les puissances mondiales sont pleinement conscientes de la puissance de la nation iranienne et du système islamique, et qu'aucune d'entre elles ne pense même à la moindre violation du territoire iranien, a-t-il ajouté. L'amiral a noté que la marine iranienne assure la sécurité des navires iraniens en haute mer et a jusqu'à présent effectué quelques 150 opérations d'escorte pour 5000 navires en haute mer. Dans un article publié le 26 septembre dans les colonnes de Mint Press, le journaliste Kent Kleinberg écrit « Le 16 septembre, deuxième jour du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, dans la ville historique ouzbek de Samarkand, le président chinois Xi Jinping a appelé les membres de l'Organisation d'Asie centrale à travailler ensemble pour empêcher les forces extérieures d'inciter à l'insécurité et aux révolutions de couleur dans la région. Il a proposé de former 2000 policiers spécialisés dans un centre de formation régional afin de renforcer les capacités d'application de la loi parmi les pays membres. Ces commentaires étaient étrangement fortuits, car en quelques heures, des émeutiers sont descendus dans les rues de Téhéran et d'autres grandes villes iraniennes, se livrant à la violence et au vandalisme. Une semaine plus tard, malgré les manifestations de plusieurs millions d'Iraniens et l'arrestation des fauteurs de troubles et surtout de leurs meneurs, les émeutes sans direction ni revendication se poursuivent sporadiquement, caractérisées par des scènes de casse violente, comme la destruction d'une ambulance transportant des policiers loin du lieu d'une émeute. Or, pour les résidents de l'ancienne sphère soviétique, ces scènes seront familières. Après tout, c'est sur ces terres que, depuis le début du siècle, plusieurs gouvernements ont été évincés lors de soulèvements codés par couleur, par exemple la révolution rose de 2003 en Géorgie, la révolution orange de 2004 en Ukraine et la révolution des tulipes de 2005 au Kirghizistan. Elles ont commencé toutes par des manifestations de rue, virées en émeutes. Invariablement aussi, ils ont été présentés dans les médias occidentaux comme des explosions spontanées et organiques de volonté populaire, motivées par une demande locale écrasante pour les droits de l'homme, la démocratie et la liberté, autre production langagière du genre auquel l'Occident habituait le monde sans en sentir lié le moins du monde. Dans tous les cas, ce sont des régimes autocratiques et impopulaires soutenus par l'Occident qui ont remplacé les administrations évincées qui n'ont rien fait pour faire avancer les causes de l'humanitarisme, du progrès ou de la liberté, mais ont seulement travaillé pour promouvoir les intérêts financiers et géopolitiques occidentaux, supplanter la souveraineté nationale sur les industries clés et secteurs économiques, et réduisent leur pays et leurs citoyens à des vassaux de l'Empire US. Mais qui est le principal moteur de ces révolutions de pacotille? Une agence gouvernementale américaine, fondée en novembre 1983, appelée la Fondation nationale pour la démocratie, ou Fed. William Casey, alors directeur de la CIA, était au corps de sa création. Il a cherché à construire un mécanisme public pour soutenir les groupes d'opposition ou, en d'autres termes, des fauteurs de troubles ou carrément des milices terroristes, ainsi que les médias à l'étranger qui s'engageraient dans la propagande pour perturber, déstabiliser et finalement déplacer les gouvernements ennemis. Au fait, alimenter des préoccupations frauduleuses concernant les droits de l'homme est une stratégie bien établie du cheval de Troie américain et la première étape de l'attentat contre l'autorité étatique par la NED qui déclare un pays non conforme en violation des droits de l'homme. Puis vient la propagande qui discrédite les transgresseurs. Et dès qu'un gouvernement a été diabolisé de manière appropriée, des mesures diplomatiques, politiques, de propagande médiatique et économique sont appliquées pour le forcer à suivre la ligne sous peine de quoi la NED irait plus loin. Que la NED surveille de près les événements à Téhéran est évident. Le 22 septembre, l'organisation a exhorté les personnes intéressées par la couverture de la montée des émeutes en Iran à suivre son bénéficiaire de la subvention, le centre Abdurrahman Bourmand. Les conditions des subventions de la NED de l'organisation montrent qu'il a reçu des centaines de milliers de dollars depuis 2016 pour promouvoir l'éducation, le discours et le plaidoyer en matière des droits de l'homme et de démocratie. Le centre Abdurrahman Bourmand renforce sans aucun doute les tentatives de la NED d'étranger et d'armer des avocats en Iran en tant que fantassins. Au cours des dernières décennies, le Laofar est devenu une tactique de déstabilisation de plus en plus populaire pour Washington, avec des effets souvent absolument dévastateurs. L'opération Lavajoto au Brésil a vu de nombreuses personnalités politiques populaires de gauche emprisonnées et des entreprises nationales prospères paralysées sous de fausses accusations de corruption, provoquant à leur tour des ravages dans l'économie du pays et inaugurant leur règne de Jair Bolsonaro. En réalité, le groupe de travail était lui-même composé d'avocats corrompus qui ont reçu une formation approfondie et une direction dans leur activité de la part du ministre américain de la Justice et du FBI. Il peut être significatif que le 19 septembre, le Washington Post ait révélé que le CENTCOM du Pentagone, qui couvre toutes les opérations militaires américaines dans la zone centrale du globe, auditer toutes ces activités de guerre psychologique en ligne après qu'un certain nombre de faux utilisateurs aient été exposés publiquement et interdits par Facebook. Parmi les comptes supprimés figurait une fausse plateforme d'information partageant du contenu publié par le média de propagande américain VOA Farsi, persan. Mais est-ce que cela marchera en Iran? S'il est vrai que la NET avance avec le temps et qu'il compte surtout sur des milliers de jeunes et d'adolescents iraniens, il est aussi vrai que l'État et la nation iranien n'en sont pas à leur première bataille contre les États-Unis. En 2008 et 2009, à l'époque de Facebook, le même procédé a été utilisé à outrance et sous prétexte d'une présidentielle frauduleuse. Les réformateurs de l'époque sont aujourd'hui les bannis du peuple iranien. L'affaire Mahsa Amini ne fait pas l'exception à la règle, car la CIA se trouve là face à un peuple au profil particulièrement complexe et qui sait comment faire l'échec au coup ennemi, aussi hybride soit-il sur tous les plans.
Bonjour à toutes et à tous, et merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le discours du chef du gouvernement malien, donc un discours au cours de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Un discours très difficile, un premier ministre très en colère contre les forces étrangères qui avaient envahi son pays, et particulièrement celle de la France, qui, selon lui, avait poignardé dans le dos le peuple malien, pillant la richesse de ce pays, neutralisant économiquement et militairement le Mali depuis 8 ans. Alors, nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
À la tribune des Nations Unies samedi, le premier ministre par intérim du Mali, Abdoulaye Maïga, n'a pas mâché ses mots et a mis les points sur les i, en réitérant la demande maintes fois exprimée de son gouvernement d'un changement de paradigme et d'une adaptation de la MINUSMA à l'environnement dans lequel elle est déployée et d'une meilleure articulation de cette mission avec les autorités maliennes. Lors de ce discours, le PM par intérim du Mali a évoqué plusieurs autres points dont son profond désaccord au secrétaire général de l'ONU à la suite de sa récente sortie médiatique, l'accusant de prendre position sur l'affaire de 46 mercenaires ivoiriens, une affaire bilatérale et judiciaire entre deux pays frères qui ne relève pas des attributions de M. Guterres.
Notre administration ne travaille pas sur la base de l'oralité ni des déclarations par voie de presse. Par conséquent, nous nous en tenons scrupuleusement à la note verbale de l'aménagement à la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, référence MINUSMA bar PROT bar NV bar 226 bar 2022 du 22 juillet 2022, dans laquelle il ressort clairement qu'il n'existe pas de lien entre les 46 mercenaires et les Nations Unies.
L'un des points les plus importants a été le terrorisme, ce levier de guerre utilisé depuis des années par les forces d'occupation en Afrique, un levier qui leur sert de justifier leur présence illégale et le pillage des ressources minières. M. Maïga est allé encore plus loin en accusant clairement l'ex-US OTAN d'envoyer des terroristes dans le pays.
Excellence, Monsieur le Secrétaire Général, le Mali tirera toutes les conséquences du droit de vos agissements. Devant Dieu, en leur âme et conscience, nous demandons à ceux qui refutent notre version d'indiquer s'ils accepteront que les militaires ayant dissimulé leurs identités, en mettant sur leur passeport qu'ils sont peintres, maçons, etc., avec des armes, débarquent dans leur aéroport, sans que le pays de destination n'ait été au préalable informé, et dans le dessein funeste de déstabiliser ce pays. S'ils ne l'acceptent pas en tant qu'État, si cela n'est pas possible à Lisbonne ou ailleurs, le Mali non plus ne l'acceptera pas en tant qu'État, et ce ne sera pas non plus possible à Bamako ou dans une autre localité malienne.
Le Mali a renoué des liens efficaces et productifs. Une coalition interafricaine, mais également internationale, avec des pays comme l'Algérie et la Russie. Des coalitions gagnant-gagnantes, contraires à celles que l'ex-US OTAN a pendant des années imposées à l'Afrique.
C'est l'occasion pour moi de saluer les relations de coopération exemplaires et fructueuses entre le Mali et la Russie, tout en réaffirmant que le Mali reste ouvert à tous les partenaires qui souhaitent l'aider à relever les défis multiples qui l'assaillent, dans le respect strict de sa souveraineté, de son unité et de la dignité du peuple malien.
Bref, ce discours était clairement une mise en garde, pour ne pas dire une déclaration de guerre malienne, contre tous ceux qui auraient l'intention de nuire aux intérêts du Mali. Le Mali a tracé le chemin, aux ennemis de prendre au sérieux ces mises en garde.
Voilà pour le reportage. Merci d'être avec nous. Vous regardez l'émission Le Débat et nous parlons bien sûr de ce discours qui a frappé fort. Donc les Nations Unies et bien sûr les pays qui s'ingèrent dans les affaires intérieures du Mali. À présent, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux invités, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
À vous et à votre équipe, et bien entendu à mon collègue.
Merci. Un grand bonjour à M. Pierre Claver-Nkodo, éditorialiste et directeur de la publication Horizon Nouveau depuis Cameroun. M. Nkodo, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de vous recevoir dans cette émission Le Débat. Ma première question va s'adresser à vous, M. Luc Michel. Alors, le Mali fait tout pour retrouver sa souveraineté et son unité, bien sûr, en frappant fort au cours de la 77e session de l'Assemblée générale. Que pensez-vous de ce discours, M. Luc Michel?
C'est la fin de l'ordre unipolaire américain où les Occidentaux terrorisaient la planète. Aujourd'hui, clairement, le Mali défie les Nations Unies. Il affirme son amitié avec la Russie. Mais surtout, il démontre la complicité de Guterres avec les Occidentaux. Dans tous les dossiers africains, dans le dossier de l'Ukraine, etc., la partialité de Guterres est scandaleuse et elle est issue du vieux cycle géopolitique du monde unipolaire. C'est terminé, on est entré dans un cycle multipolaire et dans une nouvelle ère géopolitique.
Monsieur Nkodo, nous avons entendu l'introduction de Monsieur Luc Michel. À présent, j'aimerais connaître la vôtre. Que pensez-vous de ce discours qui a frappé fort les ennemis du Mali, entre autres, critiquant fortement les Nations Unies?
Oui, voilà, il faut reconnaître que c'est un discours audacieux que le Premier ministre malien a prononcé à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et un discours qui est bien très, très attendu par les opinions africaines et un peu partout ailleurs dans le monde, surtout lorsqu'on connaît la situation dans laquelle ce pays se retrouve plongé depuis une dizaine d'années, situation sécuritaire qui s'est en même temps aggravée avec la présence des troupes françaises qui étaient stationnées et dont le rôle est désormais démontré comme étant plutôt un rôle ambigu. Dans le discours du Premier ministre malien à la tribune des Nations Unies, était à la fois une mise en garde, un rappel à l'ordre et l'affirmation affirmation de la volonté de souveraineté qu'affiche de plus en plus le Mali grâce à la coopération avec la Russie et d'autres partenaires. C'est dans un discours qui était opportun, un discours qui a permis, ou alors qui permet de plus que jamais à une certaine opinion africaine de croire qu'il existe encore des leaders sur ce continent capables de dire des choses telles qu'ils les vivent, et surtout dans l'intérêt de nos peuples. Le Mali est victime tout simplement d'une agression extérieure. D'ailleurs, il n'a pas manqué de traiter le gouvernement français des jeunes françaises. Et ça, c'est la raison, parce qu'il a mis en relief tous les éléments qui permettent à l'opinion de comprendre pourquoi il traite ce gouvernement français des jeunes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de doute, le Mali est sur une voie et en train de construire sa souveraineté progressivement et faire entendre sa voix chaque fois que l'occasion lui sera donnée dans le cadre d'une... ou dans le cadre d'une rencontre internationale, comme ce fut le cas avec l'Assemblée générale des Nations Unies dont nous sommes en train de parler.
Oui. Monsieur Luc Michel, dans le discours du chef du gouvernement malien, il a vivement critiqué le secrétaire général des Nations Unies qui avait pris une position vis-à-vis des 41 militaires arrêtés sur le sol malien, des militaires ivoiriens qui avaient été arrêtés alors qu'ils ont dit qu'ils étaient de simples gens qui n'avaient aucune intention de mener des activités militaires dans ce pays, alors que le chef du gouvernement malien est persuadé que c'est autrement. Que pensez-vous?
Écoutez, dans cette affaire des mercenaires, il y a des versions à géométrie variable, défendues en particulier par l'ONU et par son secrétaire général. Mais il faut retenir deux choses. L'avion, je peux vous le dire, de source malienne, l'avion a été intercepté, étaient chargés d'armes, ces armes étaient confisquées, qui étaient introduites illégalement dans le pays. Et ces militaires, soi-disant militaires, étaient en fait des mercenaires avec de fausses professions figurant sur leur passeport. Maçons employés dans le secteur de l'hôtellerie, etc. L'ONU est donc prise dans le mensonge. Il y a une deuxième affaire qui est également fixée. En ce moment, c'est la France qui préside le Conseil de sécurité et elle refuse de faire fixer une session pour examiner la plainte du Mali contre la France pour déstabilisation du pays et participation aux affaires terroristes. C'est donc une faillite complète des Nations Unies qui apparaît évidemment comme des complices de l'ordre occidental.
Oui. Monsieur Nkodo, donc, vous avez certainement entendu les propos de Monsieur Luc Michel qui a parlé de ces mercenaires, soi-disant des gens simples qui venaient faire une visite au Mali, alors qu'ils venaient de la Côte d'Ivoire, alors que le chef du gouvernement malien, quand il part de la Côte d'Ivoire, il part d'un pays frère. Alors comment se fait-il que des mercenaires venant d'un pays frère, peuvent potentiellement être des terroristes dans ce pays?
Je crois que là, le premier ministre malien a simplement fait usage, depuis le temps habituel, des usages diplomatiques en parlant du pays frère, quoique sachant très bien qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est d'un. Et de deux, il s'agit bien, comme vous voyez, le timing de ces arrestations. Je pense qu'il faut même saluer derrière les services spéciaux maliens qui ont évité au Mali un assassinat majeur. Vous vous souvenez que dans le même durant la même période, donc quelques jours après l'interpellation de ces militaires, l'arrestation de ces mercenaires, le cas de Kati a fait l'objet d'une attaque soi-disant des terroristes. Mais en réalité, lorsque moi j'analyse au regard de ma modeste expérience en matière d'analyse géopolitique, je crois que c'était une action coordonnée. Dans les mercenaires interceptés à Bamako, à l'aéroport de Bamako, devaient apporter main forte à la première équipe qui était sur le terrain et qui tentait justement d'attenter à la vie du. Qui intentait la vie du président Assimi Goïta. Donc tout était coordonné, tout était bien élaboré. Malheureusement, c'est la vigilance des services spéciaux des services spéciaux maliens, et certainement avec la coopération russe, qui a empêché le plan de bien marcher. Et le débat aujourd'hui n'est plus de savoir si ce sont des militaires ou des vacanciers ou alors des touristes. Il s'agit bien des mercenaires. Des mercenaires, comme le rappelait d'ailleurs le premier ministre malien, dont c'était titulaire des cartes professionnelles, les 15 années sur lesquelles il était porté. Il était marié avec une profession, peintre, étudiant, et je ne sais quoi encore. En réalité, c'était une opération de manœuvrerie que la France avait montée pour mettre un terme au régime malien qui est devenu le véritable bête noire en Afrique de l'Ouest. Et ceci ne se passe pas, et la France n'agit pas en solo. Elle souffrait son coup avec des pays comme le Niger, la Côte d'Ivoire de Ouattara, et certainement la Guinée-Bissau, qui aujourd'hui est une grosse déception pour nous les panafricains, car lorsqu'on sait que Amilcar Cabral a joué un rôle clé dans le mouvement panafricaniste, et qu'aujourd'hui, ce Bissau, Guinée, Malou se retrouve embarqué dans une histoire sur le dos de l'Afrique et contre les intérêts du continent. Donc, je pense que pour le gouvernement malien dispose de tous les peuples, comme le rappelait d'ailleurs Luc Michel il y a un instant. Malheureusement, c'est la France qui assure la présidence du Conseil de sécurité. Et la France, tant qu'elle a la tête de ce Conseil, elle met tout en œuvre pour que cette plainte contre la France ne soit pas inscrite à l'ordre du jour. Et il faudra peut-être attendre, parce que la présidence est déposée en projet du genre, ce qui signifie que le réveil est inscrit à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil de sécurité. Mais la France bloque la procédure des quatre fers pour justement éviter que les plus mis à nu et surtout que les opinions, qu'il y ait une confrontation entre la France, la diplomatie française et la diplomatie malienne. Oh, mais je crois quand même que, quoi que l'on dise et quoi qu'il en soit, le Mali dispose des éléments suffisants pour pouvoir établir la responsabilité de la France dans cette énième tentative de déstabilisation du Mali et d'une manière singulièrement et d'une manière d'un pays africain. Donc, je crois que, même si ça ne se joue pas, là, tout de suite, le moment venu, ça va se jouer et les députés malais, il y a toutes les cartes dans leurs mains, elles seront en très bon usage. Lorsque vous voyez la liberté d'esprit avec laquelle, la liberté d'esprit avec laquelle le Premier ministre fait preuve, le Premier ministre malais a fait preuve lors de son intervention à la tribune des Nations Unies.
Tout à fait.
On croit quand même, on est quand même certain que la vérité sera dite et la vérité sera dite et tout sera connu dans cette scabreuse affaire de mercenaires dans laquelle même le secrétaire général des Nations Unies a pris position pour influencer la position pour pouvoir établir la responsabilité de la France dans cette énième tentative de déstabilisation du Mali et d'une manière singulièrement et d'une manière d'un pays africain. Donc je crois que même si ça ne se joue pas, là tout de suite, le moment venu, ça va se jouer et les députés maliens, il y a toutes les cartes dans leurs mains, elles seront en très bon usage. Lorsque vous voyez la liberté d'esprit avec laquelle, la liberté d'esprit avec laquelle le Premier ministre fait preuve. Le Premier ministre malien a fait preuve lors de son intervention à la tribune des Nations Unies.
Tout à fait.
On croit quand même, on est quand même certain que la vérité sera dite et la vérité sera dite et tout sera connu dans cette scabreuse affaire de mercenaires dans laquelle même le secrétaire général des Nations Unies a pris position pour influencer la position de l'État malien. Et c'est là où on découvre malheureusement que les Nations Unies de plus en plus deviennent complices de l'injustice dans le monde parce qu'elles sont totalement inféodées au pays à l'impérialisme occidental.
Absolument. Nous l'espérons en tout cas. Monsieur Luc Michel, à plusieurs reprises, M. Nkodo a parlé de la présence russe dans ce pays, même si dans le discours du chef de gouvernement malien, ça n'a pas été évoqué, donc à la Nations Unies. Mais tout de même, depuis l'arrivée de la Russie dans ce pays, Plus de sécurité est arrivée sur place depuis l'arrivée de la Russie. Ils ont tué plus de terroristes en un mois qu'ils ont tué en plus de 8 ans de la présence française sur le sol malien. Que pensez-vous?
Écoutez, la Russie a apporté de l'oxygène géopolitique, diplomatique et surtout militaire au Mali. En 8 ans de guerre, les Français ont eu 56 morts. C'est une farce. Dans une période équivalente au début des années 60 au Vietnam, il y avait eu 100 000 morts. Dès lors, la guerre était une farce. Et évidemment, depuis que les Russes ont pris les choses en main, les terroristes sont en grande qualité annihilés. Sauf dans la fameuse région des Trois Frontières, en raison de la proximité, justement, des forces occidentales. Maintenant, il faut dire encore un mot sur la Côte d'Ivoire. Si les peuples maliens ivoiriens sont frères, ce ne sont pas le cas des gouvernements. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui devenue la base arrière logistique des forces spéciales occidentales et des services secrets occidentaux. En 2019, Alassane Ouattara a été réélu à un troisième mandat contre l'hostilité de l'administration américaine. Et en particulier, la DE américaine a lancé une opération anti-drogue contre le gouvernement icardien, accusant le premier ministre décédé aujourd'hui, Bakayoko, d'être le baron de la drogue dans le golfe de Guinée. En échange de cela, la Côte d'Ivoire a négocié et Alassane Ouattara est devenu aussi aujourd'hui l'homme lige des Français, mais surtout des Américains. Il y a des dizaines de milliers de forces spéciales américaines qui sont déployées en Côte d'Ivoire. En l'année passée, la principale base logistique des Occidentaux qui était située au Sénégal a été remise à l'armée sénégalaise et le président Macky Sall a retourné sa veste géopolitique, devenant dans la guerre du gaz un proche allié de la Russie, comme l'a montré sa réception amicale par Poutine il y a quelques semaines. À partir de ce moment-là, la base logistique des Occidentaux s'est transformée en Côte d'Ivoire. Et c'est la Côte d'Ivoire où sont déployés les Occidentaux, où se mène la guerre justement de ceux-ci contre l'implantation russe. Il y a la campagne médiatique contre le soi-disant groupe Wagner. Il y a les projets de sanctions des gouvernements africains. Il y a le déploiement des forces spéciales, etc. Mais tout cela se fait avec la complicité des Occidentaux au Conseil de sécurité et avec la complicité des Nations Unies, en particulier des organismes des Nations Unies comme le Conseil des droits de l'homme de Genève ou encore la Cour pénale internationale agissent contre les Russes en Afrique.
Mais M. Luc Michel, évidemment l'Occident voit d'un très mauvais œil cette présence russe qui, selon vous, a apporté beaucoup d'oxygène à ce pays. Alors, les 41 000 mercenaires arrêtés, interceptés par le gouvernement malien, bon, ça, c'est une parenthèse, mais il y a certainement d'autres mercenaires qui ont réussi à s'infiltrer illégalement sur le sol malien pour mener des activités terroristes par base arrière et les Occidentaux. Que pensez-vous?
Écoutez, le respect des frontières n'existe pas pour les Occidentaux. Et en particulier, l'Afrique qui est disputée maintenant entre la Russie et la France et les États-Unis, c'est un nid de barbouzes et d'espions pour les Occidentaux. Et le respect des frontières n'existe pas. On l'a vu dernièrement dans l'affaire éthiopienne, on l'a vu au Cameroun, on l'a vu en Guinée équatoriale, il y a eu des raids de mercenaires et des violations de la frontière entre le Gabon et la Guinée équatoriale par des forces spéciales françaises et espagnoles. Et donc, c'est la même chose au Mali. La zone des trois frontières qui touche notamment au Niger et où sont encore déployés les Français dans les pays voisins du Mali, évidemment, c'est une zone d'infiltration pour ceux-ci. Mais maintenant, le Mali, la sûreté malienne est bien décidée à ne pas laisser faire. Elle est appuyée sur un des services de contre-espionnage les plus puissants au monde, le GRU russe, qui est issu du GRU soviétique, fondé par c'est le service de contre-espionnage le plus puissant du monde. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait même réussi à infiltrer les plus hauts états-majors allemands, ce qui avait donné un avantage stratégique à la Russie. C'est contre cela que les Occidentaux se battent. Et bien entendu, on ne parle pas suffisamment de la présence du GRU en Afrique. Il est pourtant l'objet de toutes les préoccupations des agences américaines qui mènent la guerre médiatique contre les Russes.
Est-ce que vous pensez que le Mali réussira à regagner sa souveraineté nationale, M. Luc Michel?
Écoutez, il est déjà en grande partie fait en expulsant Barkhane et maintenant il s'apprête à expulser la MINUSMA. Le Mali a un gouvernement révolutionnaire, il a des politiciens anti-occidentaux, en particulier le chef de la sécurité militaire malienne et le ministre des Affaires étrangères, qui sont des anti-occidentaux. Mais surtout, le Mali est en train, a le soutien de sa population et en particulier de mouvements politiques comme Yerewolo, Debout sur les Bantins, qui regroupe les jeunes maliens. Et maintenant, après Barkhane, c'est la MINUSMA qui va être éjectée.
Absolument. Monsieur Luc Michel, géopoliticien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions depuis Bruxelles. Un grand merci à Monsieur Pierre Claver-Nkodo. Je rappelle qu'il est éditorialiste et directeur de la publication Horizon Nouveau. Il était avec nous depuis Cameroun. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Une récession de l'économie suffira-t-elle à terrasser l'inflation? Aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans la zone euro, mais aussi en Indonésie, les banques centrales remontent leurs taux directeurs pour tenter de juguler l'inflation engendrée par la hausse des coûts de l'énergie, au risque d'une récession. La Banque centrale d'Indonésie a relevé le 22 septembre son taux directeur pour le deuxième mois de suite de 3,75% à 4,25% afin de lutter contre une hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie observée dans le monde entier en lien avec le conflit en Ukraine et les sanctions occidentales contre la Russie. La décision au début du mois du gouvernement indonésien de relever de 30% les prix du carburant subventionné devrait encore aggraver en septembre l'inflation qui s'établissait à 4,69% en août sur un an. Des économistes prédisent qu'elle pourrait atteindre environ 7% à la fin de l'année. Confrontée à une inflation record de plus de 10%, la Banque centrale d'Angleterre a annoncé le même jour une nouvelle hausse de son principal taux directeur de 0,5 point de base pour le porter à 2,25%. Elle a également reconnu que le pays allait entrer en récession dès le troisième trimestre. La veille, la Réserve fédérale américaine des États-Unis avait elle aussi augmenté pour la troisième fois cette année son principal taux directeur pour le porter vers une fourchette de 3,0% à 3,25%. L'Institut monétaire s'est montré déterminé à combattre une inflation qui a dépassé les 8% en août, avec une hausse des prix alimentaires de plus de 13%. Il a d'ailleurs reconnu que le remède ne serait pas indolore et a ramené ses prévisions économiques pour le pays à une croissance quasi nulle de plus 0,2% en 2022, alors qu'il tablait encore en juin sur plus 1,7%. Dans la zone euro, qui atteint en août une inflation moyenne de plus de 9%, la Banque centrale a également réagi en procédant à une hausse brutale de 0,55% le 14 septembre, après une hausse d'un demi-point en juillet. Ces hausses de taux représentent une réelle menace pour les finances publiques des États membres de l'Union européenne qui ont dépensé et vont continuer de dépenser des dizaines de milliards d'euros pour tenter de protéger citoyens et entreprises des effets de la très forte hausse des tarifs de l'énergie. En tête figure l'Allemagne, qui a déjà dépensé ou budgété 100,2 milliards d'euros, soit 2,8% de son produit intérieur brut. L'Italie arrive en deuxième position avec, pour le moment, 59,2 milliards d'euros promis ou dépensés en faveur des ménages et des entreprises, soit 3,3% de son PIB. En France, le coût du bouclier tarifaire mis en place dès novembre 2021 sur les prix du gaz et de l'électricité arrive troisième avec 53,6 milliards d'euros engagés, soit 2,2% du PIB. Ces dépenses, qui creusent encore le déficit budgétaire hexagonal, pourraient avoir un coût très élevé à long terme. Le 20 septembre, la France a vu son taux d'emprunt à 10 ans franchir un plus haut en 8 ans à 2,5%, pendant que l'Allemagne emprunte à 1,8% contre un taux négatif en début d'année et que l'Italie a de son côté dépassé les 4% contre environ 1% en début d'année, ravivant le spectre d'une crise de la dette sur le continent. Il est critique d'éviter des crises des dettes qui pourraient avoir de profonds effets déstabilisateurs et mettre l'existence même de l'Union européenne en danger, a alerté le Fonds monétaire international dans un récent texte concernant l'Europe. Plombée par la crise du gaz, l'économie européenne risque fort de basculer en récession, ce qui devrait peser sur les prix des biens et services, et donc l'inflation. Reste que la BCE, comme la Fed, redoute des effets de second tour. L'économie européenne et celle des États-Unis semblent loin d'être sorties de l'ornière, comme le suggère l'ajustement de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, du lundi 26 septembre sur les perspectives du PIB mondial. Les pressions sur la croissance économique s'accompagnent actuellement d'un pic de 40 ans sur l'inflation. Si les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, qui se sont traduites par un regain d'inflation au sortir des confinements, tendent à s'estomper, la guerre en Ukraine a provoqué un choc historique sur l'énergie, pire que celui des années 70. L'effondrement de l'approvisionnement en gaz russe de l'Europe a plongé l'Union européenne dans une crise énergétique de grande ampleur. Face au spectre de pénurie d'énergie, l'Europe prévoit notamment une réduction de la consommation de gaz de 15% d'ici mars. L'envolée des prix de l'électricité pose un défi économique majeur à l'économie européenne, alors que l'inflation des prix de l'énergie et des denrées alimentaires entraîne une perte de pouvoir d'achat majeur pour les ménages, faisant ainsi plonger leur morale. Le bond de l'inflation affecte aussi la rentabilité des entreprises qui revoient en baisse leurs perspectives d'investissement. Aux États-Unis, la décélération des prix sera lente car la hausse du coût du logement, composante essentielle de l'inflation cœur, hors élément volatile, ne manque pas d'inflexion rapide notable. Outre-Atlantique, les pressions sur l'économie tendent à modérer l'inflation salariale, mais cette modération est peu dynamique. Du coup, l'inflation sous-jacente va rester relativement élevée. La Fed aura besoin de plus de temps que prévu pour retrouver un niveau d'inflation conforme à son objectif de 2%. En zone euro, la crise de l'énergie affecte l'ensemble de l'économie, industrie et services. Le choc de l'énergie se diffuse par une augmentation rapide des prix en Europe et devrait s'installer dans la durée. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les entreprises anticipent clairement une hausse significative des prix des coûts de production. Pour autant, si l'industrie démontre sa capacité à répercuter ces hausses de prix, ce n'est pas le cas des entreprises de services, encore en période de rattrapage. Quant aux ménages, l'inflation met clairement à mal leur pouvoir d'achat, ce qui pose un risque sur la consommation et la croissance. 70% des composantes du panier des biens et services ont aujourd'hui une variation annuelle des prix supérieure à 2% et 43% des composantes augmentent de plus de 6%. Face à l'inflation, les ménages vont légitimement accentuer leurs revendications sur les salaires, ce qui est de nature à doper l'inflation sous-jacente. Or, ce processus n'a pas encore été enclenché en zone euro. En conclusion, la récession et l'atténuation des effets des perturbations des chaînes d'approvisionnement devraient peser sur l'inflation, qui risque toutefois de refluer moins vite que prévu. Devrait rester sur le qui-vive et maintenir une posture ferme. La BCE devrait notamment prendre garde à l'apparition d'effets de second tour, à même de faire durer la forte inflation constatée ces derniers mois.